et tout cela.
Française, français.
C'est grâce à vous.
Notre route est droite, mais la pente est forte.
La NSA espionnait aussi l'Union Européenne à l'ancienne.
La guerre continue.
C'est la réforme, oui, la chienlit, non.
La politique, on a l'impression que c'est comme le Tour de France.
Fais les valises, on rentre à Paris.
Nous ne voulons rien instrumentaliser.
Je vous demande de vous arrêter.
Nous avons décidé de ne pas mentir.
La présidence de la République, ça n'est pas un radio-crochet.
Ça, c'est une autre façon de faire de la politique.
Si vous voulez appeler ça comme ça.
Alors, quoi de neuf, quoi de neuf?
La République, c'est moi, c'est moi.
Eh bien, cette République, elle a été votée, mais elle n'est pas la seule. Alors, Jean-Pierre Foubert, eh bien, on est dans le studio tous les deux afin de faire une rapide analyse, on va dire, des résultats des européennes. Parce que figurez-vous, Jean-Pierre, on a droit d'en parler, puisque ça y est, la campagne électorale est finie, puisque le vote est passé. Donc là, on peut se permettre de parler de tout ça, de ces gens qui sont élus, d'autres qui ne le sont pas, des résultats. Si vous voulez bien, on va commencer par des strates, comme on le fait avec nos invités, quand on a des invités. On va commencer par parler des résultats sur Montpellier. Alors sur Montpellier, on se rend compte de quand même d'un phénomène. C'est Jadot, la liste Jadot des Verts, qui arrive en tête, avec presque 20%. On revient ensuite le Front National qui s'appelle Rassemblement National de Jordan Bardella avec 15%. Je fais simple, hein, je ne donne pas les pourcentages exacts. Puis nous avons la France Insoumise avec environ 10%. Puis le PS, donc de PS et ses alliés avec M. Glucksmann à 8,31%. Et enfin, nous avons les Républicains avec 6,34%. Les autres listes, je ne vais pas vous les dire. Donc, première analyse, Jean-Pierre, de ce phénomène montpelliérain qui est quand même, c'est pas comme dans la France, on vote pas pareil. Et j'ai bien entendu oublié de citer celle qui est arrivée en tête, c'est-à-dire La République En Marche avec 22,77% des voix.
Oui, alors le premier commentaire qu'on peut faire, c'est d'abord constater que parmi les villes mais on en parlera dans un instant, les villes de l'Hérault ou du Languedoc-Roussillon, Montpellier est une des seules villes, effectivement, où La République En Marche arrive en tête.
Arrive en tête et puis suivi des Verts.
Suivi des Verts, ce qui était... Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que à l'élection européenne précédente, c'est le Front National qui était arrivé en tête. Et donc, on a un tassement manifeste.
Montpellier frondeuse.
Voilà. Et puis surtout, ce qui est intéressant à remarquer, c'est cette poussée des Verts, ce maintien effectivement des Verts, et puis surtout l'effondrement total des Républicains.
Ah, les Républicains qui représentent 6,34% sur la ville de Montpellier.
C'est-à-dire en gros le tiers des voix que la droite a...
devrait faire.
Ou a fait jadis. Effectivement, il n'y a pas une vraie... Il y a une stabilité des forces, disons, de progrès, entre guillemets. Et puis les forces conservatrices, effectivement, se tassent. Le Front National revient à son étiage, je dirais presque traditionnel à Montpellier, c'est-à-dire...
15%.
15%, relativement faible, voilà. La France Insoumise, qui avait fait... On pourrait le dire, un carton hein, aux dernières législatives, puisque...
Oui, la députée.
La députée, hein, Muriel Rességuier, élue très largement, avec un Mélenchon qui arrive en tête, etc. Là, eh bien, effectivement, c'est un tassement, ils sont à environ 10%.
Alors maintenant, si on étudie Montpellier, c'est l'exception, comme vous dites. Parce que toutes les autres villes de notre département, là, c'est le Rassemblement National qui est en tête, que ça soit à Béziers, à Lodève, à Lunel, à la Grande Motte, et même à Sète.
Et à Sète, oui, c'est-à-dire cette espèce de tradition de la ville de Sète, avec des personnalités, avec le monde communiste qui a régné sur Sète pendant des décennies, c'est fini, quoi. C'est-à-dire, mais c'est un phénomène, même si M. Brossa à Sète fait presque 7%, enfin 6,5%, c'est vrai que par rapport à la période Liberty, qui était maire, député de Sète, etc., tout ça est effectivement... terminé, hein, je pense que... Mais c'est intéressant aussi de voir que s'il y avait un regroupement de la gauche ou des mouvements de gauche, eh ben, la gauche pourrait continuer à exister. Là, manifestement, elle n'existe plus.
Elle est éclatée. Alors, si vous voulez bien, Jean-Pierre, on passe au département. Alors, on a vu très rapidement les villes, donc on se rend bien compte que, mis à part Montpellier, c'est le Rassemblement national. Donc, on le retrouve dans les chiffres du département de l'Hérault, avec un Rassemblement national à 28,58% des votants et une participation assez surprenante. 52,71% des électeurs ont été votés.
Oui, ce qui est un beau pourcentage, ce qui est mieux que le national. Ça veut dire que peu à peu, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde une carte dans le détail, on s'aperçoit que le vote Front National, il y a ce qu'on pourrait appeler un phénomène de varisation, c'est-à-dire un phénomène de ce qui s'est produit dans le Var il y a une vingtaine d'années, et où tout le littoral maintenant est sous la coupe, entre guillemets, du Front National. En tout cas, le Front National arrive en tête un peu partout.
Ah oui, puis on a le maire de Beaucaire que nous avons reçu dans ses studios qui est omniprésent dans les médias. Nous l'avons vu pendant toute la série électorale, Monsieur Sanchez, ceux qui ne le connaissent pas, qui représente cette nouvelle... les nouveaux du Front National et du Rassemblement National, jeunes, plutôt avec un discours qui a l'air d'être policé, je ne sais pas, et qui séduit des ménagères de plus de 50 ans, si je puis me permettre cette expression.
Je ne suis pas persuadé qu'elle considère les ménagères de plus de 50 ans qu'il est le gendre idéal, mais en tout cas, c'est vrai qu'il est très très bien implanté et qu'il est, je crois, porte-parole d'ailleurs.
Il écrit des blogs, etc. Il a modernisé, on va dire, le Rassemblement National. Pour revenir à l'Hérault, donc largement en tête le Rassemblement National avec 28,5 en gros. Ensuite, on a La République En Marche avec pas tout à fait 20%. Et encore les Verts qui tirent leur épingle, même sur l'ensemble du département, avec 14,18%.
C'est vrai.
Qu'on a une France insoumise, alors là, vraiment faible, 7,46%.
Oui, alors ce qui est vrai aussi, c'est que je pense que le poids de Montpellier dans les scores que font les Verts au niveau du département, c'est effectivement sans doute une bascule. Mais c'est vrai que le fait que les Verts soient donnés à un peu plus de 14% dans l'ensemble du département...
Le département, c'est une surprise plutôt.
Oui, absolument, c'est assez... assez imposant. Ça n'est pas vrai d'ailleurs que dans les grandes villes. Ils font effectivement des scores. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est quand on regarde, enfin, les analyses en tout cas le montrent, c'est que les jeunes qui se sont mobilisés ont voté assez largement pour les Verts.
Pour les Verts. Alors il y a un autre phénomène, on va l'étudier un peu plus tard si vous voulez au niveau national, mais déjà on peut le voir dans le département de l'Hérault. Les deux grands partis de gouvernement de la 5e République, nous sommes bien d'accord, c'était les Républicains qui avaient des tas d'autres noms avant, UDA, UMP, etc. Et puis le Parti Socialiste, c'est les deux grands, partis de gouvernement. Eh bien, quand vous cumulez leurs deux scores, on arrive à 6, 12, allez, 13% un tout petit peu passé pour les deux grands partis. Ça, c'est quand même... incroyable.
Oui, je pense que c'est un bouleversement. C'est-à-dire que je pense que le créneau sur lequel s'est engagé Emmanuel Macron et pour lequel il a été élu, non seulement a créé une érosion, il a profité de l'érosion, ou en tout cas d'érosion du sentiment ou de l'attachement que les électeurs pouvaient avoir avec les partis politiques traditionnels. Je pense que la Ve République, qui était basée justement sur ce principe de l'alternance, c'est un peu fini. C'est-à-dire que ça ne repose plus sur quelque chose d'assez stable. Et je pense d'ailleurs que ça peut être extrêmement dangereux parce que ça veut dire que les points de repère, et vous l'avez très bien signalé, les points de repère qu'on avait précédemment ou que l'électorat avait précédemment, ces points de repère ont disparu. Et donc je dirais que tout est possible. Mais je pense que ces résultats, alors ça c'est une analyse très personnelle, je pense que ce résultat, peut-être aussi, il est ambigu. Il est ambigu pour deux raisons. Première ambiguïté, les gens ont plus voté pour une politique nationale que pour une politique européenne.
Oui, c'était en fait une élection qui a été un peu tronquée, un peu déplacée. C'est-à-dire que normalement, on aurait dû voter pour élire des représentants de notre pays au Parlement européen. Mais en fait, ça a beaucoup évolué vers une sorte de vote. On en a parlé dans les émissions qui ont préparé du mois de janvier au 15 avril. On en avait parlé avec beaucoup de nos invités. On a détourné un peu le problème vers la République en marche contre le Front national. Pour faire simple, Macron contre Le Pen.
Oui, mais alors justement, c'est la deuxième ambiguïté que je voulais soulever. C'est que je pense que cette procédure amène, pour avoir a priori la certitude d'être réélu président de la République en 2022, c'est d'avoir comme adversaire au second tour le représentant du Front National, du Rassemblement National. C'est dangereux. À chaque fois que ce genre de débat de second tour s'est passé entre un représentant du Front National, qu'il s'agisse de Jean-Marie Le Pen ou de sa fille, à chaque fois le score du Front National est de plus en plus important. Je pense que si on continue comme ça, encore deux fois,
Gagner, c'est sûr, les présidentielles. Alors, on passe à l'Occitanie rapidement. Alors, l'Occitanie, écoutez, ça ressemble un petit peu à l'Hérault. Il y a quelque chose entre les deux. On a le Rassemblement national en tête avec 25,68. On a La République en marche deuxième. Et puis, la Haute-Garonne, elle a mis La République en marche devant. Donc, Toulouse est toujours une ville rose, alors un peu. Si on peut le dire, parce que La République en marche n'est pas forcément rose.
Non, tout à fait. Mais vous savez, sur les 13 départements de la région, le Front National arrive en tête dans 10 ou même 11. Parce que si je regarde bien, effectivement, il y a la Haute-Garonne et puis l'Aveyron.
L'Aveyron et le Lot qui ont voté.
Et le Lot. Donc 10
sur 13.
Voilà. Mais on avait déjà remarqué ça au niveau des dernières régionales et on remarquait ça aussi au niveau des dernières cantonales en 2015. Et où on s'est aperçu qu'effectivement, il y avait des poussées absolument extraordinaires.
Dans la campagne, vous avez vu, quand même, des départements très ruraux ont porté le Rassemblement national en tête. Oui. On peut penser à, l'Ariège, regardez, c'est quand même étonnant, cette carte. Il y a des départements vraiment qui sont vraiment ruraux, qui maintenant n'hésitent pas à voter Rassemblement national.
Mais si on pense qu'effectivement, la majorité de la région, même si on ne peut pas faire un transfert direct d'une élection à l'autre, les raisons ne sont pas exactement les mêmes. Mais si on regarde le fait que cette région, elle est avec une majorité à gauche, avec le Parti socialiste,
Ses alliés,
je pense que quand on voit les résultats, ça va être très compliqué pour la prochaine fois.
La prochaine fois, pour succéder, à Mme Delga, ça va être...
Oui, c'est dans moins de deux ans.
Ça va être difficile. Bon, maintenant, si vous voulez bien, on s'élève au niveau national. Et alors, d'abord, le premier chiffre dont j'aimerais bien que vous en parliez, c'est 50,12% de participation, alors que tous les instituts de sondage nous donnaient plutôt 43-44.
Oui, alors je pense qu'il y a eu, il y a eu deux phénomènes conjoint. Le premier, c'est que je pense que la campagne a été paradoxalement plutôt bien couverte, même si les débats avec 15 personnes me semblaient assez pénibles à suivre.
Moi, j'ai pas suivi.
Et que je ne sais pas comment les gens pouvaient vraiment faire un choix. Le fait qu'il y ait eu 34 listes n'explique pas plus les choses. Je pense qu'il y a eu un double phénomène. Le premier... à mon avis, une bonne couverture médiatique qui fait que les gens se sont dit « Oui, quand même, il faut pas laisser l'Europe se faire comme ça sans nous. » Deux, je pense que la campagne et l'engagement qu'a pu avoir le président de la République en disant « On peut pas laisser, en dehors de moi, c'est le chaos », très gaullien d'ailleurs comme phrase, et le risque de voir le Front National arriver en tête, entre nous, c'est un peu un échec quand même, parce que même avec son engagement personnel et le fait de brandir une crainte n'a pas eu l'effet escompté, puisque en gros il y a 1% même 2% d'écart entre les deux, c'est-à-dire quand même ça fait 450 000 voix, c'est pas négligeable, et un peu partout, c'est-à-dire que effectivement, y compris dans le monde rural, dans le monde urbain, sur les côtes, etc., on a cette poussée.
On peut dire que quand même, le résultat de cette élection prouve que le Rassemblement national, maintenant, est vraiment ancré, ancré dans tous les milieux, dans les villes, dans les campagnes, sauf peut-être certaines villes, comme on a vu pour Montpellier ou encore sur Paris, où c'est différent. Mais ce Front national, il a bien fallu qu'il prenne des voix quelque part pour l'Europe. Je pense qu'il les a pris aux Républicains en grande partie, non ?
Oui, je pense que...
On en parlera des Républicains.
Oui, mais je pense qu'il y a un autre... Alors, il y a un deuxième phénomène qui explique peut-être cette mobilisation. C'est, je pense, qu'il y a beaucoup de jeunes qui se sont mobilisés et qui, effectivement, ont voté plutôt, comment, écologistes
les verts, hein,
oui. Tel qu'on expliquait tout à l'heure, et qui fait que ça explique sans doute cette espèce de sursaut, comment on pourrait dire, citoyen.
Alors, pour revenir au Rassemblement national, alors, les premières phrases de Marine Le Pen ont été quand même extrêmement, je dirais, volontaires, combatives, puisqu'elle a dit... c'est un désaveu démocratique pour le président de la République. Il faut qu'il en tire les conséquences, et tenez-vous bien, dissoudre l'Assemblée nationale en instaurant pour notre vote national la proportionnelle.
Oui, alors ça, c'est le leitmotiv du Front National. Moi, quand je vois ce rapport de force qui s'est établi entre le Front National, enfin le Rassemblement National et les Républicains, ça me fait penser à la coopération qui pouvait avoir lieu. Là, il n'y a pas d'accord entre les deux formations, mais ils se battent sur des terrains qui sont très proches les uns des autres. Hein. L'un piétine le jardin de l'autre. Ça me fait penser à l'époque de l'Union de la Gauche et où François Mitterrand a été un petit peu le personnage qui a absorbé et qui a
dissous... Parti communiste français.
Absolument.
Le Parti communiste français.
Ouais. Et je me demande si on n'assiste pas effectivement au phénomène des droites.
Voilà. Ouais. Et des droites, mais enfin, pour les droites, on évoquera un peu ce qui s'est passé en Europe, parce que là, on est sur notre petit bout de France. On est qu'un des 27 ou 28 pays, puisque la Grande-Bretagne, on ne sait toujours pas, qui représente cette Union européenne. En Europe, ce n'est pas tout à fait la même chose. Hein, c'est pas la même chose. Revenons toujours chez nous, on est en France. Donc, La République en marche, on peut dire qu'elle fait un score honorable sans être extraordinaire. Puisqu'il y avait quand même un engagement fort du président de la République dans les dernières semaines de la campagne, du Premier ministre. Il y a eu un engagement très fort, mais peut-être qu'il y a un petit peu de raté dans cette campagne électorale de La République En Marche.
Alors oui, mais ce qui est intéressant, c'est quand on regarde les résultats nationaux, hein, en gros,
oui, là,
mais
est,
même
on...
locaux, on a une relative stabilité des scores. Puisque je crois que le Rassemblement national avait fait à peu près le même score précédemment. Si on regarde le score que fait Nathalie Loiseau, donc pour La République en marche, c'est à peu près le score, c'est un peu moins que le score qu'avait fait le président de la République aux dernières présidentielles au premier tour.
Premier tour, oui.
Je dirais qu'on a une relative
stabilité,
mais le phénomène quand même le plus important, je trouve, c'est l'effondrement des Républicains.
Alors, on va en parler si vous voulez bien, mais avant d'en parler, juste rapidement, campagne réussie pour l'eurodéputé Yannick Jadot pour Les Verts.
Ah oui, ça, complètement.
Et là, on revient à des scores qui ont déjà... Attends, pour les auditeurs qui ne savent pas, aux Européennes, les Verts ont fait souvent de très bons scores. L'Europe, ça va bien aux Verts, on peut dire. Hein.
Oui, mais je pense pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que souvent, dans des émissions parlant de l'Europe, du Parlement européen, etc., il y avait deux personnages qui ressortaient. L'un qui a été longtemps... Le député européen pour l'Allemagne, qui est Daniel Cohn-Bendit, oui. Qui est un espèce de personnage emblématique. Et puis, je pense à José Bové.
José Bové chez nous, oui,
voilà.
Tout à fait.
Et donc, c'est vrai qu'ils se sont battus sur des points qui étaient pas seulement des problèmes économiques, pas seulement des problèmes d'environnement, mais aussi avec une espèce de vision...
De l'Europe.
De l'Europe, mais morale par rapport aux injustices que l'Europe pouvait, disons, développer.
Alors,
et donc, il y avait ce combat. Et puis, je pense que la crainte des jeunes sur l'avenir de la planète, il y a qu'à voir les mobilisations, il y a qu'à voir les manifestations, combien ça réunit de jeunes notamment. Et je pense que ça a joué énormément.
Alors, pour relativiser l'euphorie qui doit avoir gagné les Verts, moi, je rappelle qu'en 2009, ils avaient fait 16,3%. Et donc, cette année, ils font 13,47%. C'est juste pour rappeler les choses telles qu'elles ont été. Alors, on y arrive, aux Républicains. Les Républicains de M. Laurent Wauquiez, c'est une catastrophe, c'est un effondrement. Ils sont même pas à 8,50%, ils sont à 8,48% au niveau national. Alors, La faute à qui ? La faute à M. Wauquiez ? La faute au siphonnage du Front National ? Je ne sais pas, du Rassemblement National ?
Je pense que, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je pense que entre les Républicains et le Front National, le Rassemblement National, ils sont presque sur le même jardin. Comme disait un jour Jean-Marie Le Pen, il vaut mieux avoir l'original.
L'original que la pâle copie. Et donc M. Wauquiez, voilà. en ayant tellement tiré sur les terres, enfin, ouais. tellement drainé et tenté de rapporter des électeurs sur le terrain du Rassemblement National, s'est trompé. Mais rappelez-vous, c'est ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy s'est trompé aussi quand il a voulu intégrer une grande partie des électeurs du Front National pour qu'on vote pour lui. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est le Front National de l'époque, donc maintenant le Rassemblement National, qui a pompé les voix de la droite dite républicaine.
Oui, puis je pense que la campagne, même si M. Bellamy est quelqu'un de, sans doute de très intelligent, qu'il a une espèce de rhétorique rodée, etc., il a un discours qui tient, mais le problème, c'est qu'il faut voir d'où il vient, ses positionnements précédents. Il aurait pu être au Front National, hein. Il était contre le mariage pour tous, il avait des positions extrêmement conservatrices, très conservatrices, et donc il était... Quand on sait en plus qu'un des leaders des Républicains est passé au Front National, député de donc forcément, il y a un système de vases communicants. Et je pense d'ailleurs, ce serait intéressant à analyser, mais il faudrait avoir du temps et le détail. Je pense qu'on disait, il y a des rapprochements entre la France Insoumise et le Front National. Ouais. Mais je pense que le rapprochement, là, il est prouvé. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un transfert d'énormément de voix des Républicains vers le Front National.
Alors, on va en parler. Vous avez cité la France Insoumise. Alors, la France Insoumise qui devance de justesse la liste menée par le Parti Socialiste, Place Publique et Nouvelle Donne. C'est quand même un peu une surprise aussi. La France Insoumise avec 6,31% et le Parti Socialiste et ses alliés à 6,19%. Ils sont coude à coude. Et c'est une surprise, non ?
Alors, c'est... Oui, mais je pense qu'il doit y avoir probablement l'accumulation d'un certain nombre d'erreurs ou de points tactiques. D'abord, je pense que le côté très dur, donneur de leçons, etc., de Jean-Luc Mélenchon n'a rien arrangé. Je pense que l'image qu'il a donnée, je ne discute pas du contenu du programme, mais l'image qu'il a donnée, à mon avis, a fait peur. Le fait que les gens, avec le phénomène des gilets jaunes qui dure,
se sont lassés.
Et malgré le fait que Jean-Luc Mélenchon ait un discours en disant « mais nous devons tenir compte des revendications des gilets jaunes », laissant entendre qu'en faisant ça, il pouvait récupérer une partie des voix des gilets jaunes, je pense qu'il s'est complètement trompé. Et en plus, les candidats gilets jaunes ont fait en moyenne 0,2%. Ouais. Donc ça veut dire que quelque part, il y a une espèce d'usure qui s'est produite. Et chez les gilets jaunes, je pense que les gens ont retrouvé leur marque initiale politique et qui fait que...
Rassemblement national, voilà. en grande partie. Alors maintenant, on a parlé de ceux qui avaient des élus, puisqu'il fallait avoir la barre de 5%. Maintenant, je vais vous parler de deux qui sauvent tout juste leurs frais de campagne, mais vraiment tout juste, c'est Nicolas Dupont-Aignan et Benoît Hamon. Ils arrivent tout juste au-dessus de la barre fatidique des 3%, donc une bonne nouvelle pour eux, ils seront remboursés de leurs frais de campagne. Mais par contre, ils n'auront pas d'élus. Et puis, alors, les grands, grands perdants, c'est l'UDI, quand même, l'UDI avec 2,25%. Et puis le PCG avec 2,50 aussi, sous la barre des 3%, etc., etc. Donc là, tous ces gens-là ne seront pas remboursés de leurs frais de campagne. Et puis, c'est aussi le fait qu'il y ait eu 34 listes. Donc, il y a eu un petit peu un essaimage. Il y a eu un petit peu de par-ci, un petit peu de ci, un peu de ça. Le parti animaliste est peut-être celui qui crée la surprise dans les petites listes, puisque lui, il retient quand même 2,17% des électeurs qui ont été votés.
Oui, alors je pense qu'il y a un phénomène là aussi qui serait intéressant à examiner. Mais ça fait partie, je crois, de la médiatisation des problèmes actuels.
Oui.
L'environnement,
la souffrance animale,
etc., etc. Et donc, on se retrouve avec des phénomènes comme cela. Mais vous avez raison, je pense qu'il y a peut-être un rééquilibrage. Mais je plains, même si ce n'est pas ma tasse de thé, comme dit l'autre, je plains ce qui est en train d'arriver aux Républicains. Quand je vois que Valérie Pécresse dit la meilleure chose que puisse faire Wauquiez, c'est de démissionner. Mmh. Que, donc là, il va y avoir des règlements de compte absolument phénoménaux. Et donc, on va se retrouver dans une situation avec des bagarres du style Fillon-Copé d'il y a quelques années ou des choses comme ça.
Oui, je sens qu'en effet, qu'il y a du pain sur la planche pour les Républicains, mais ils ne sont pas les seuls. Cette gauche aussi très fragmentée, bah, c'est toujours pareil. S'il y avait un peu plus d'union, elle ne serait pas à 6%, loin de là. On a terminé rapidement de cette analyse sur l'ensemble du territoire. Juste une projection maintenant sur l'Europe. Parce que nous, on est franco-français, là, on parle de nous. On a fait des campagnes sur ces élections européennes, peut-être un peu trop franco-françaises. L'Europe, ce n'est pas la France. Et donc, on n'a pas du tout la même vision des choses au niveau européen que l'on l'a pour nous. Alors, il y a 751 députés. Enfin, il y a 2 sièges, on ne sait pas très bien si la Grande-Bretagne va rester. Surtout après la démission de Mme Theresa May, on tend peut-être vers un hard Brexit, comme on dit, hein.
Oui, alors c'est assez intéressant. J'ai pas le résultat exact en Grande-Bretagne, mais si j'ai bien compris, les gens qui se sont présentés, il y a eu quelques surprises, hein,
notamment des pro-européens,
qui ont profité de ce moment, même si demain les députés sont obligés de démissionner, hein, enfin en tout cas de quitter le Parlement. Mais je pense qu'effectivement, pour la Grande-Bretagne, ça a été le fait de dire bah, s'il y avait un référendum maintenant, bah, il est probable que les gens souhaiteraient rester dans l'Europe.
Alors, au niveau du Parlement, on n'a pas exactement les chiffres parfaits actuellement, mais en gros, on sait à peu près à quoi s'attendre. Personne ne pourra avoir la majorité absolue, ça c'est sûr. Que ça soit les eurosceptiques, que ça soit avec l'extrême droite, que ça soit la gauche les sociaux-démocrates, que ça soit les verts écologistes, que ça soit le PPE, le Parti populaire européen, qui normalement devrait quand même peut-être tirer la ficelle du jeu. C'est-à-dire, contrairement aux républicains français, le PPE risque d'avoir la présidence. De cette assemblée. Enfin, c'est des plans sur la comète, hein, parce que ça a l'air d'être assez découpé. On a l'impression vraiment de se retrouver dans une chambre un peu 4e République, si je peux me permettre cette expression, pour le Parlement européen.
Oui, exactement. C'est pour ça qu'en même temps, quand Marine Le Pen souhaite une proportionnelle intégrale, on risque d'avoir. On serait sûrement dans une situation, puisque aucun des partis.
Il y a la majorité absolue.
La majorité absolue. Donc, ça serait des gouvernements
avec des alliances,
très instables.
Et des alliances, regardez ce qui se passe en Espagne avec les Cortés. Même si le Parti Socialiste espagnol a fait un score fantastique, y compris aux européennes d'ailleurs. Hein. Ils ont maintenu ce score. C'est de la surprise un peu aussi, hein, parce que ce n'était pas comme ça il y a quelque temps. Le PP s'est effondré, le Parti Populaire Espagnol s'est effondré. Il y a eu l'arrivée de Vox, l'extrême droite en Espagne, c'est une nouveauté, hein, tout ça. Mais dans le Parlement espagnol, au Cortés, on ne peut pas gouverner. C'est pas possible. Il faut des alliances. Alors, ça serait un petit peu le cas qui va se reproduire à l'Assemblée, à Strasbourg et Bruxelles, là, pour pouvoir voter. Ça va pas être évident, mais il faut bien que les auditeurs comprennent, au Parlement européen, ce n'est pas le Parlement national, ce n'est pas du tout la même chose. Il y a souvent des votes qui se font avec des gens très opposés au niveau politique national, parce qu'ils se retrouvent sur un texte qui les convient. Avant de terminer cette émission, s'il vous plaît bien, Jean-Pierre, quelques nouvelles de nos élus de notre région, des réélus et les élus. Il faut les saluer parce que la plupart de ces personnes sont venues nous rendre visite dans notre émission Quoi de neuf ?
Absolument. Mais un premier mot pour Éric Andrieux, qui était le premier d'ailleurs élu que nous avions invité, sortant, grand spécialiste de la politique agricole commune, au doigt. Et qui nous avait rendu visite et qui a été donc réélu. Il était 3e sur la liste socialiste, hein, enfin de Glucksmann.
Oui.
Nous avons eu également, nous avons reçu Mme Tolleret.
Qui est élue,
qui était, je crois, 8e sur la liste, ou 9e, sur la liste
de la République En Marche, on va dire, pour faire simple.
Voilà. France Jamais, que nous avions reçu également, qui était sortante et qui a été réélue. Elle était 20e sur la liste liste, ça risquait d'être difficile, mais avec le score
du Front National, Rassemblement...
Elle est la dernière, d'ailleurs, élue sur la liste.
Quoique, on ne sait pas s'il y aura 21 ou 20, on ne sait pas encore exactement, parce que ça dépend de la Grande-Bretagne.
Oui.
Et puis ça dépend aussi, là, y a, entre La République En Marche et le Rassemblement National, je crois qu'il y a un élu qui va se jouer dans un mouchoir de poche.
C'est ça. Et selon le fait ce sont des listes à 79 noms, mais ça peut être 74 demain, ça peut effectivement jouer...
Madame Jammeh, de toute façon, est
élue.
Et on veut dire élue, parce qu'on ne peut pas dire réélue pour son cas, puisqu'elle avait remplacé, je vous rappelle,
Monsieur
Alliot, qui était député européen, qui avait été élu député national et qui avait choisi ce mandat, et donc il fallait quelqu'un pour le remplacer. Ce fut France Jammeh, qui cette fois-ci est élue.
D'accord. Et puis sinon, les autres personnalités de la région, c'est effectivement Gilbert Collard, qui était député, lui, du Gard, et qui est
qui passe maintenant à l'Europe.
Qui passe à l'Europe. Et puis,
si on peut dire, parce qu'avec ses opinions, je ne sais pas s'il passe vraiment à l'Europe.
Voilà. Et puis un Manuel Bompard, mais qui n'est pas du tout... qui n'a rien à voir avec Bompard, le maire d'Orange, qui est crypto Front National, Manuel Bompard, qui est un mathématicien toulousain et qui est élu de la France Insoumise.
La France Insoumise, alors vous voyez, on a quand même des représentants de la France Insoumise dans notre région. Bon courage pour la formation des différents groupes au Parlement européen, ça vaudra la peine de se pencher vraiment précisément. Et puis, il y a aussi, on peut dire, la difficulté d'avoir la droite alliée avec l'extrême droite, qui était un rêve de M. Orban.
Absolument.
Un rêve du FPO en Autriche, mais qui est un petit peu tombé suite à certaines révélations, surtout en Autriche, des ramifications qu'il peut y avoir entre certaines parties d'extrême droite avec M. Poutine en Russie.
Complètement.
Donc peut-être que ça aurait été... Là, ils auraient gouverné facilement s'ils étaient alliés avec le PP.
Bien sûr.
Mais je ne crois pas que ça va se faire.
Et puis alors, juste un petit rappel quand même, parce que je crois que c'est intéressant. Rappelez qu'en mars, l'année prochaine, il y a des élections municipales, qu'en mars, l'année d'après, il va y avoir des élections cantonales et en décembre, des élections régionales. Et puis l'année suivante, c'est-à-dire en 2022, il y aura des élections présidentielles et 6 semaines après, donc en mai, et 6 semaines après, des élections législatives.
Eh bien, Jean-Pierre, si on veut tenir le choc jusqu'à législative de 2023, c'est ça ?
2022,
il va falloir qu'on garde la forme, parce qu'il y en a des choses qui vont se passer d'ici là.
Si Dieu nous prête vie, voilà. Mais vous connaissez la formule, Dieu n'est pas ma tasse d'athée.
Allez, au revoir, Jean-Pierre.
Et tout cela,
Française, Français,
c'est grâce à vous.
Notre route est droite, mais la pente est forte.
La NSA espionnait aussi l'Union Européenne à l'ancienne.
La guerre continue.
C'est la réforme, oui, la chienlit, non.
La politique, on a l'impression que c'est comme le Tour de France.
Fais les valises, on rentre à Paris.
Nous ne voulons rien instrumentaliser.
Je vous demande de vous arrêter.
Nous avons décidé de ne pas mentir.
La présidence de la République, ça n'est pas un radio-crochet.
Ça, c'est une autre façon de faire de la politique.
Si vous voulez appeler ça comme ça.
Alors, quoi de neuf, quoi de neuf, quoi de neuf.